Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes avec Tao Carpentier. Bonjour.
Bonjour.
Tao Carpentier, tu es ici pour parler au nom de Territory Lab, une association qui se situe où ?
C'est un projet qui est porté par une association et une SCOP. Situé dans la vallée de la Drôme, voilà.
Un endroit précis de la vallée de la Drôme où...
À Mirabel et à Adi, donc en fonction des deux structures, mais on est surtout sur un projet porté par des habitants, des citoyens de la vallée, et voilà, qui souhaitent faire leur part, quoi, pour le territoire.
L'activité autour de ça, c'est de porter des projets, et particulièrement autour de l'écologie et du développement durable.
Alors, du développement durable et du développement local. En fait, le projet, il est parti de la rencontre d'une dizaine de citoyens anciens, plutôt des nouveaux arrivants, donc qui venaient de Lille, de Paris, de Toulouse, Bordeaux. Voilà, on est arrivé sur ce territoire, attiré par le projet Biovallée, et en s'attardant un petit peu dessus, en allant voir ce qui se passait, on s'est rendu compte que dans la vallée, il y avait énormément d'initiatives, d'associations, d'entreprises ou de collectivités qui mériteraient d'être mises en avant, d'être valorisées dans la vallée parce qu'elles ne sont pas forcément connues, et également en France, donc dans les villes d'où on vient. Et donc on a commencé à réfléchir pour se dire qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, développer, à la fois pour valoriser ces initiatives-là et en même temps pour pouvoir faciliter notre propre intégration dans ce territoire et être acteur en fait en tant que citoyen, entrepreneur, bénévole parfois, voilà.
Pour ça, vous êtes nouvel arrivant sur le territoire ou alors vous êtes originaire de la Drôme, hein ?
Alors moi, je suis originaire de Lille, donc je suis arrivé il y a un an et demi, mais les autres personnes avec qui on travaille sur ce projet sont là depuis parfois plus de 7 ans. Donc on est une petite équipe diversifiée.
Et ce désir, d'ailleurs vous êtes issu de quel milieu professionnel ? Vous avez exercé des activités professionnelles qui sont en corrélation avec ce que vous proposez aujourd'hui ?
Oui, alors pour ma part, je viens plutôt d'un milieu, j'ai fait une école de commerce public. Et assez rapidement, je suis parti de ce milieu-là parce qu'il ne me convenait pas, pour aller plutôt vers le développement durable. J'ai travaillé pendant 3 ans dans l'entreprise Pocheco, donc plutôt industrielle, mais très engagée sur les questions de développement durable au sens large. Et ensuite, je suis devenu consultant, animateur de démarches collectives dans les groupes, donc plutôt sur le volet management et coopération, gestion de groupe. J'ai participé à monter une petite activité de conseil dans le nord de la France que j'ai quittée en arrivant ici.
Votre objectif, c'est d'amener une transition, comme vous le dites, dans la vallée de la Drôme. On parle de la vallée, celle qui émane depuis Val-de-Rhône jusqu'à Livron, Loriol.
Oui, c'est bien ça. En fait, c'est vraiment ce pourquoi on a lancé cette initiative-là. C'était de contribuer en fait à accélérer les démarches de transition qui sont déjà assez présentes ici, et de faire notre part et d'identifier en quoi est-ce que les compétences qu'on amène peuvent être utiles à ce territoire-là. Ça a été vraiment l'amorce de ce travail. On a posé plusieurs principes au départ. Une envie de sortir du côté manichéen, d'être soit blanc, soit noir, toujours trancher les choses et plutôt aller dans quelque chose de... quel entre-deux il peut y avoir et comment on peut se rapprocher de ce qui est juste. De travailler autour des principes du vivant qui sont très portés, notamment dans le Diwa, pour voir comment ces principes peuvent nous inspirer en fait dans notre quotidien en tant que citoyen, mais aussi en tant que dirigeant, en tant que gérant d'équipe, en tant que porteur de projet, comment on peut s'inspirer de ce qui existe et ce qui est vivant pour inspirer nos modes de vie. Et le dernier volet, donc il y a vraiment l'ancrage sur le territoire, comment on peut travailler à l'échelle d'un territoire, comment on peut s'appuyer sur le vivant et comment on peut essayer de sortir un peu de cette dichotomie entre une tendance un peu à vouloir tout opposer, en fait, chercher plutôt l'entre-deux que de chercher à opposer les choses. Et ça nous a amené en fait à se dire comment on peut décliner ces idées-là à l'échelle d'un territoire avec ce qui existe. Et ça nous a amené, notamment avec l'association BioVallée, à construire en fait différents formats qu'on va tester pendant 2 ans, différents formats de rencontres à destination des gens du coin, mais aussi de gens à l'extérieur, à commencer par des cycles de conférences qui commencent là le 31 mai, qui auront lieu également le 5 juillet et prochainement en septembre. Un format plutôt réduit où on fait venir en fait des intervenants extérieurs, mais à la différence de ce qu'on peut voir, de leur proposer des formats pour rester sur place un peu plus longtemps et pour transmettre ce qu'ils ont à transmettre de manière approfondie, adaptée aux personnes qui sont ici, aux besoins qu'elles peuvent avoir. Donc ça, c'est ce qu'on a intitulé une masterclass, un peu en s'inspirant de ce qui se fait dans les milieux culturels, artistiques. Mais le nom parle pas forcément en fait de ce qu'on y met vraiment, et ça peut parfois un peu rebuter, mais le fond, il est là en fait. Vraiment proposer des temps dédiés pour prendre le temps d'aller dans les sujets. Et voilà, pour commencer, on est vraiment là-dessus. D'autres formats sont en préparation, un parcours plus long de 4 à 5 jours pour vraiment prendre le temps de découvrir ce qui se passe dans la vallée de la Drôme. Et on souhaiterait en fin d'année organiser un TEDx rural. Alors TEDx rural, c'est un format qui est assez connu dans les grosses métropoles, dans les milieux alternatifs, où finalement il y a un intervenant qui peut sortir de nulle part et qui va en fait être accompagné pour aller chercher le fond de son message, le transmettre en 15 minutes de manière hyper dynamique, et où vraiment il va chercher ses tripes quoi, et porter son message de fond. Et le but de cette forme d'intervention qui vient des États-Unis est de disséminer, en fait, de propager les bonnes idées ou les pratiques qui sont intéressantes, décalées, innovantes et qui vraiment peuvent parler aux gens. Et donc ensuite, c'est retransmis au niveau vidéo et c'est accessible dans quasiment toutes les langues et partout dans le monde. Voilà, donc on souhaiterait travailler là-dessus avec un format sur la vallée de la Drôme.
Donc là, tout prochainement, le 31 mai, a lieu un rendez-vous qui se situera où ?
Alors, les rendez-vous qu'on organise sont centralisés à l'écosite dehors, le campus BioVallée. Et donc, on est vraiment sur ces deux premiers formats, un format conférence et un format masterclass, où on fait venir en fait 3 intervenants. Un intervenant plutôt national qui a une expertise reconnue, une certaine renommée. Un intervenant local qui est un acteur fort du territoire et local ou régional, et ensuite une personne, une structure, vraiment qui porte un ancrage de proximité très très forte et qui a un rôle en fait sur le territoire de proximité. Là en l'occurrence, on a fait le choix de parler d'économie circulaire. Je fais une petite boucle avant de rentrer dedans. On a décliné nos 3 principes, ceux dont je vous parlais tout à l'heure, le manichéen, le vivant et le territoire. On a essayé de les décliner en des thématiques concrètes parce que on était sur quelque chose d'assez conceptuel, finalement plus à la limite philosophique. Et on souhaitait se dire, mais finalement, si on l'applique aujourd'hui au quotidien et à notre territoire, qu'est-ce qui serait intéressant d'aller chercher ? Et donc, on a décliné 3 thématiques pour cette année. La première étant l'économie circulaire. La deuxième étant réinventer les organisations, donc on est plutôt sur les approches managériales, comment on travaille ensemble. Et le dernier étant le biomimétisme. L'économie circulaire, on voit bien qu'on est sur un volet développement durable, assez ancré, avec plein de dimensions. Réinventer les organisations, on va plutôt chercher le lien entre les gens, les façons de fonctionner. Et biomimétisme, c'est vraiment une application concrète des principes du vivant. Voilà, comment est-ce qu'on peut s'inspirer de la nature pour créer ? Pour en revenir en fait au 31, cette rencontre elle aura lieu donc pendant 1 jour et demi. Donc la conférence a lieu le 31 à 18h30 et elle se déroulera un peu en 4 étapes. La première en fait, les intervenants qui seront là, donc Emmanuel Druon pour l'entreprise Pocheco, qui est une PME industrielle qui a réussi à faire une très belle transition depuis 15 ans, en fait, qui travaille avec acharnement et engagement. GPA, qui est une entreprise vraiment bien ancrée sur la thématique de l'économie circulaire, dans le sens où son cœur de métier est de revaloriser, de favoriser le réemploi, la réutilisation, le recyclage de tous les matériaux issus des automobiles. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment bien ancré, où un déchet à un endroit devient une ressource et permet de rester à proximité, d'être valorisé. Et la dernière personne est une personne de la Chambre de commerce et d'industrie qui est en charge notamment d'accompagner les entreprises dans des projets d'éco-conception. Donc comment ils peuvent réinventer ou revisiter leurs produits pour qu'ils soient moins impactants sur l'environnement. D'accompagner des démarches inter-entreprises ou inter-structures pour favoriser les coopérations entre ces entreprises-là pour réduire leur impact, et une démarche soutenue par l'ADEME qui vise à soutenir ces structures-là et les amener à réduire leur consommation d'eau, leur consommation d'énergie, à gagner en efficience au niveau de leurs bâtiments. Donc on est vraiment sur la thématique de l'économie circulaire. Cette première soirée, elle se déroulera en fait dans un premier temps avec plutôt un témoignage en tant que personne pour décrire comment ces personnes en sont arrivées là, comment est-ce qu'elles finalement elles se sont intéressées aux questions d'écologie, de développement durable et aujourd'hui d'économie circulaire. Ensuite, il y aura un temps débat donc, qui sera animé et qui permettra d'aller creuser le sujet en interaction avec ces personnes. Ensuite, on souhaite proposer que les participants et les intervenants en fait, puissent se mêler dans des petits groupes d'échange pour aller creuser la thématique de l'économie circulaire. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire sur le territoire? Qu'est-ce que ça veut dire pour un citoyen de la vallée de la Drôme de s'impliquer dans une démarche d'économie circulaire au même titre qu'une collectivité, un élu, une entreprise, une association? Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi on parle? Et qu'est-ce que ça pourrait générer? L'idée ensuite est de clôturer avec un dernier tour des intervenants où ils pourront en fait partager peut-être leurs conclusions vu ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils se sont dit, de ce qu'ils ont échangé avec les participants, mais vraiment dans un format plutôt intimiste. Ça, c'est la soirée. Et notre ambition à nous, c'est que les personnes qui viennent à cette soirée puissent avoir une définition claire finalement de ce que c'est. Parce que l'économie circulaire, c'est un peu... C'est un peu un concept fourre-tout où tout le monde y va de son pronostic, chacun se dit oui, mais ce que je propose, ça rentre ou ça chapeaute finalement les démarches des autres, alors que, en tout cas pour nous, le but est vraiment qu'il y ait une définition propre qui se construise et qu'à partir de là, on puisse dire mais qu'est-ce qu'on en fait? Comment on veut aller plus loin?
Il existe une théorie de l'économie circulaire reconnue?
Alors il existe, oui, il existe une définition de l'ADEME dans les grandes lignes, et je ne la connais pas par cœur, mais pour simplifier les choses, c'est comment est-ce qu'un déchet peut devenir une ressource. Mais derrière, en fait, il doit y avoir une dizaine de penseurs qui ont amené une contribution depuis la genèse de ce terme, qui date des années 70, hein, finalement, on en est vraiment... on voit bien qu'il y a une corrélation entre développement durable et économie circulaire. Mais le concept vraiment fondamental se situe là. Mais quand on creuse un petit peu le sujet, on se rend bien compte que ça induit énormément de choses finalement. Ça induit d'apprendre à produire autrement, d'apprendre à consommer autrement, d'apprendre à imaginer des projets autrement. On est sur un décalage de façon de faire et de penser et qui va bien plus loin en fait que simplement se dire un déchet devient une ressource.
Vous êtes dans une position actuellement d'opérer un sondage de ce qui existe dans la vallée de la Drôme et ensuite de réfléchir ensemble avec des personnes qui viendraient à vos réunions ou conférences pour trouver une synthèse de ce que vous voulez proposer et de ce qui est existant. Je pense que sur le territoire de la Drôme, il doit y avoir d'autres personnes qui réfléchissent à cette économie circulaire. Est-ce que vous en avez une et vous êtes prêt, comme vous le disiez, de trouver un juste milieu entre ces divers courants de pensée?
En fait, je répondrai plutôt sur la manière dont on fonctionne ou on a fonctionné jusque-là. Notre démarche, elle a commencé entre finalement qu'est-ce que nous, on avait envie de porter individuellement et qu'est-ce qui existait. Ça s'est fait sur des allers-retours, en fait. Depuis qu'on a lancé le projet, on a dû rencontrer une cinquantaine d'acteurs. de différents types qui avaient leurs démarches, leurs projets, leurs attentes, leurs ambitions. Et donc on est déjà en fait dans une logique d'aller-retour, de décloisonnement en fait. Derrière le noir ou le blanc, c'est ça que je voulais dire, c'était sortons des dualités entre l'urbain et le rural, entre le néo-rural et l'ancien ou l'habitant pure souche. L'idée est vraiment d'aller là-dedans. Et donc ces conférences, elles sont aussi dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que on n'a pas envie d'être des donneurs de leçons. Par contre, on a envie de chercher où est-ce qu'il y a de l'envie, où est-ce qu'il y a de l'élan, et comment on peut soutenir ça finalement à notre échelle. Donc la conférence, elle est un lieu à la fois de rencontre d'urbains et de ruraux, de penseurs ou d'intellectuels, et peut-être plus de gens qui font et qui sont dans le concret, dans l'action, sans que ce soit un jugement, hein. Et aussi, à un moment donné, on va créer une définition commune. Donc c'est là où on va un peu sur un entre-deux, un terrain commun.
Vous disiez tout à l'heure en introduction qu'il y avait des représentations par rapport à ce que vous allez proposer, un référent national. Vous citiez une personne et Alité. On peut avoir plus de précisions sur cette personne, par exemple?
Oui, bien sûr.
Et puis, par la suite, les autres représentations, soit régionales ou plus locales.
On est toujours dans une ambition de, à la fois de faire venir, parce qu'on se rend bien compte que dans les villes d'où on vient ou avec qui on a des liens, on se rend compte que dans la vallée de la Drôme, il y a des éléments de solution ou de réponse à des attentes qu'ils peuvent avoir. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on fait venir une personne de l'extérieur, aussi pour donner envie à des personnes de se déplacer. En l'occurrence, Emmanuel Druon de l'entreprise Pocheco, on l'a fait venir parce que, à notre connaissance, c'est une des rares entreprises qui plus est industrielle et PME, donc qui correspond aussi à un tissu économique qu'on retrouve en fait dans la vallée de la Drôme. Il a su insuffler en fait avec un travail concentré de son équipe. Enfin, pour avoir travaillé un petit peu avec eux dans le nord de la France, ils ont réussi à transformer leur entreprise, mais au-delà des mots, en fait. On voit beaucoup d'entreprises qui parlent de développement durable, mais finalement très peu qui vont à fond dans cette initiative-là. Et pour vous donner quelques exemples qui marquent, mais qu'on peut retrouver assez facilement, aujourd'hui, en fait, le bilan carbone de cette industrie est négatif. Donc, il génère moins de CO2 que ce qu'il en consomme. C'est bien ça. Voilà, mais en tout cas, ils compensent complètement leur impact carbone. Ils ont réduit en l'espace de 3 ans leur consommation d'eau de 80%. Ils ont installé en fait sur toute leur toiture de la végétalisation en prenant soin de ne pas mettre des espèces invasives. Ils ont réduit leur empreinte au sol pour réaménager un verger conservatoire. C'est un refuge LPO. Y a tellement en fait de choses qu'ils ont pu mettre en place que c'est un exemple complet. En tout cas pour une structure qui veut mettre en place ça chez lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ils ont réussi à prendre le recul de ça et à en mesurer les effets. Ils ont prouvé, en fait, par leur activité, ils sont quand même fabricants d'enveloppes, donc ils utilisent des ressources papetières. Ils ont prouvé que non seulement il était possible pour un industriel, sur un marché hyper difficile, donc avec des critères économiques, qu'il était plus intéressant pour une entreprise d'agir et de penser de manière plus écologique que de ne pas le faire. Et en faisant cette preuve-là, ils intègrent une amélioration du cadre de travail pour les gens, ils intègrent une préoccupation croissante pour leurs salariés, pour leurs partenaires de l'écologie. Enfin, c'est une démarche qui est vraiment intéressante à observer, à comprendre, et qui donne aussi un autre regard sur les entreprises.
Et pour la suite, on va peut-être abréger et passer directement, par exemple, à une référence locale sur laquelle vous vous appuyez. On peut citer quelle entreprise ou quelle personnalité.
Ok. Alors, j'ai pas toute la liste, mais en tout cas, elles sont indiquées sur notre site internet. Il y en a beaucoup, en fait, des personnalités emblématiques. Et encore une fois, moi, ça fait un an et demi que je suis là. On a rencontré beaucoup de gens et ce qu'on a pu voir, en fait, au-delà des personnalités emblématiques, c'est plutôt... Il se passe quelque chose dans la vallée de la Drôme. Le projet BioVallée montre ça à l'extérieur. En habitant dedans, certains ne s'en rendent pas compte. Mais pour moi, en tout cas, il y a une concentration d'initiatives remarquables qui est incroyable. Je pense à celles qui me viennent là. Je pense à Terre de Liens, qui est situé à Creil, qui a un impact national, qui va re-questionner finalement notre rapport à la propriété, au rapport au foncier. Je pense à, par exemple, au Trans-Express, qui a également une renommée nationale, voire internationale, et qui est un exemple remarquable de compagnie artistique et créative sur un territoire rural. Mais on retrouve aussi le travail qui a été fait par les communes, les communautés de communes au travers de la rivière. C'est quasiment la dernière rivière sauvage d'Europe. Enfin, pour moi, en fait, en faisant le tour et en essayant de définir en quoi cette région est remarquable, il existe vraiment un panel d'initiatives sur tous les sujets, les amanins sur le volet agricole, l'école de la nature et des savoirs, à la fois sur le volet éducatif et en même temps sur le lien vivant. Pour moi, en fait, il y a tellement de choses. On en a listé une dizaine sur notre site internet, mais le but, c'est qu'au fur et à mesure, on puisse enrichir en tout cas cette première étape, au fur et à mesure des rencontres, des liens. Et le TED rural a aussi cette vocation-là. Vous me parliez de personnalité. L'idée est d'aller progressivement, au fur et à mesure des rencontres, de se dire, ben, finalement, quelle personne on aura envie de mettre en avant et quelles idées elle porte et quel message il y a. Ouais, c'est pas exhaustif, j'en suis navré, mais je suis pas ici depuis suffisamment longtemps pour tout connaître.
Donc cette rencontre avec Biovallée, puisque vous venez du Nord, et ces initiatives, si je comprends bien, émanent du Nord. Hein. Comment se fait-il que... Peut-être, oui, vous voulez
alors,
peut-être...
En fait, elle a été... elle vient pas du Nord, l'initiative.
Non.
En fait, elle s'est construite. Moi, je suis arrivé ici en tant que personne et j'ai rencontré des gens ici avec qui on a envie de monter ce projet-là. Mais des personnes qui sont là parfois depuis 15-20 ans. Voilà.
De cette expérience que vous avez pratiquée, comment s'est opéré ce rapprochement avec Biovallée?
Alors, le rapprochement avec Biovallée, mais en fait, il s'est fait avec cette équipe locale qui avait déjà des liens, qui avait travaillé avec eux, qui sont, on est adhérents, par exemple, à l'association. Donc, il y avait déjà un lien de fait, en fait. Voilà. Et quand on a fait le tour, en fait, pour essayer de comprendre par où commencer en termes d'action sur ce territoire et avec qui le faire, finalement, on s'est dit, là, il y a un acteur qui est intéressant, de par sa gouvernance, de par la diversité de ses adhérents, de par des personnes qui sont sur toute la vallée, finalement, autant du Diwa que de la communauté de communes du Val de Drôme, qui a une certaine renommée, une certaine reconnaissance. Donc le point de départ a été là, en fait. Et le lien, ensuite, c'est nous qui le faisons. C'est cette équipe de 6 personnes qui essayons d'agréger progressivement différents sujets, différents besoins qu'on a pu identifier. Le travail sur l'économie circulaire, c'est une première étape. Ensuite, il y a une autre thématique qu'on aborde en juillet, donc autour de réinventer les organisations et ainsi de suite. Que par rapport à ces thématiques-là, on décline plusieurs types de formats. Donc là, on a beaucoup parlé de la conférence. Le lendemain de la conférence, le but est de travailler la thématique autrement. On a invité un certain nombre d'associations, d'entreprises locales qui pourraient être intéressées par le sujet. Et ils vont prendre la matinée pour travailler concrètement leurs projets, leurs envies, là où ils sentent qu'il y a un potentiel, avec cet intervenant qui va mettre son expertise au service de ces projets-là. Et l'après-midi, on va travailler avec, de manière également ouverte, avec les acteurs du territoire, quels qu'ils soient, qui ont envie de réfléchir plus sur comment l'économie circulaire, par exemple, pourrait s'appliquer sur le territoire. Mais on est vraiment sur un format dédié, et ensuite on passera à un autre format, où on gardera la même logique, c'est-à-dire qu'on a cherché un intervenant national, on a cherché une référence régionale et une référence locale à chaque fois pour vraiment travailler les thématiques de façon globale et transversale. Voilà. Je ne sais pas si ça...
Donc vous parlez d'économie circulaire. Est-ce que vous avez aussi rencontré ici dans la Drôme, dans la vallée, la notion d'économie solidaire aussi? Est-ce qu'elle-même est associée à ce projet?
Qu'est-ce que vous entendez par économie solidaire?
Alors, ça rejoint un petit peu l'idée du recyclage et aussi à des prix plus réalistes pour des propositions.
Alors, pour moi, en fait, votre question, elle rejoint un peu la question de Chapelle. C'est-à-dire que pour moi, on peut parler de la même chose. Finalement, la question de la définition d'économie solidaire ou d'économie circulaire, pour moi, c'est juste une manière d'aborder le sujet. Et ça dépendra de la définition que les gens ont envie de se donner, quelque part. L'économie circulaire, elle peut être solidaire, elle peut ne pas l'être. L'économie solidaire, elle peut être circulaire ou elle peut ne pas l'être. Et je pense que ça dépend en fait des choix et des besoins qu'il y a sur le territoire. Si à un endroit, il y a besoin de recréer des solidarités et de faire en sorte qu'elles génèrent de l'emploi, qu'elles génèrent de l'économie au niveau des ressources, que ça aura du sens de le mener parce que c'est ça qu'il y a besoin, quelque part. Donc pour moi, en fait, oui, c'est corrélé. J'ai pas une réponse, en fait, à dire plutôt l'un, plutôt l'autre. Je sais pas, je pense que c'est... Pour moi, c'est le même sujet de fond, en fait. C'est comment on transite vers une région de façon large où on utilise un minimum de ressources naturelles, où on fait en sorte que les gens puissent avoir un travail qui leur convient, dans lequel ils s'épanouissent et qui est valorisé à la bonne mesure, qu'il y a des dispositifs de solidarité qui permettent à chacun de subvenir à leurs besoins à minima. Donc pour moi, on est là-dedans, en fait. C'est juste une question de mots, après.
Mis à part BioVallée qui vous soutient dans cette action, je dirais, d'autres collectivités vous soutiennent aussi ?
Alors on a le soutien et on travaille avec la communauté de communes du Val de Drôme, on a le soutien de la communauté de communes des Pays de Saillant. On est en lien avec la communauté de communes du Diouam, on était un peu plus loin et on a manqué de temps en fait pour créer ces relations-là, mais on souhaite que ça se densifie. Et ça s'est fait notamment avec un soutien européen, où on a réussi à amorcer en tout cas le travail autour du Leader. Donc Fonds Leader, qui est un soutien qui vient après réalisation du projet, entre guillemets. Et on a quelques structures aussi extérieures à la vallée qui soutiennent le projet. Voilà. Et sinon, en fait, dans les 10 structures dont je vous parlais tout à l'heure, on a eu un soutien de principe, en tout cas, de celle-ci sur comment se développer. Et on cherche au fur et à mesure à densifier, en tout cas, ces soutiens et faire en sorte que ceux et celles qui ont envie de travailler là-dessus ou travailler avec nous puissent le faire, et on est ouvert, quoi.
Les rendez-vous proposés à Heure oui. seront principalement situés justement à Heure, oui. Ou alors est-ce que vous avez dans l'idée de venir sur les territoires pour être au plus près des habitants même ?
Alors on ne l'a pas encore travaillé dans ce sens-là, parce qu'on est sur une année de lancement, mais effectivement ça pourrait avoir beaucoup de sens. On a fonctionné en fait jusque-là sur un peu un pilotage dynamique, c'est-à-dire que on a travaillé au fur et à mesure avec les liens qui se faisaient, en essayant d'avancer le projet. Et donc s'il y a des possibilités de travailler en ce sens-là dans le Diwa ou même ailleurs, nous on est partant, quoi. On est partant. Après, ça se construit étape par étape, et c'est bien en ça en fait que je vous disais au début, on est sur un projet, une phase un peu expérimentale. Donc on a imaginé des formats qui se confrontent au fur et à mesure à l'envie des uns, aux idées des autres. Et donc on alimente, on ajuste au fur et à mesure. Et cette première année, en fait, elle va nous servir de point de repère. Parce que quand on fait quelque chose, ça génère des réactions, forcément. Et donc l'idée qu'on a derrière la tête, c'est de se dire, faisons cette première année, ajustons ce qu'on peut, en fonction de ce qu'on a envie aussi nous, et faisons un bilan à la fin de cette année, pour voir comment on ajuste l'année suivante. Et peut-être que l'année prochaine, le format, ce sera de se dire, une partie se fera à Heure, une partie se fera à Die, une partie se fera à Saillant ou à Cray, ou ailleurs, peut-être qu'on ira dans les plus petits villages, ou je sais pas, en fait, ça doit se construire au fur et à mesure, et avec l'élan de chacun, quelque part.
Pour les personnes intéressées sur ces conférences et ces rendez-vous, vous avez un site internet, je suppose, pour en connaître la teneur ?
Oui, on a un site internet qui est assez récent, qui est donc le territory-6lab.com, où vous retrouvez l'information. On alimente un fil actu aussi, pour pouvoir nourrir les réflexions, là en l'occurrence sur l'économie circulaire, demain sur la thématique de réinventer les organisations. Donc les informations sont présentes dessus et on ajuste. On a également une petite newsletter qui permet de se tenir informé. On est un petit peu présent sur les réseaux sociaux, mais on manque un peu de temps pour y consacrer l'énergie nécessaire. Voilà, et ensuite, ce que la petite particularité en fait qu'on a, c'est qu'on est parti du principe que les conférences sont des temps de transmission de connaissances, au maximum, que ce soit via de l'échange entre les gens, des moments de lien, mais également avec les intervenants qu'on fait venir, et on souhaite que ces rencontres soient en participation libre, de façon systématique, sur cette année déjà, pour construire une culture générale commune et vraiment qu'on parte avec les mêmes bases en fait en termes de connaissances. Il y a des formats qui sont un peu plus dédiés à des structures sur des temps plus de travail en fait, où là on a des formats un peu payants, donc on est sur des tarifs qui sont également accessibles par rapport à ce qui se pratique ailleurs, et c'est un peu là où on se cherche en fait, parce que on consacre tous du temps, de l'énergie, des moyens, une partie bénévole, une partie non bénévole, et qu'on cherche à trouver l'équilibre, en fait, le bon équilibre, à la fois pour que ce soit accessible et en même temps pour que ça permette de rémunérer, de couvrir les frais, parce que ça coûte de l'argent de faire ça. Voilà, donc on est un peu en quête de tout ça. Et aujourd'hui, les soutiens qu'on a, les mécènes qui nous ont apporté des fonds, le soutien des communautés de communes et du fonds leader vont nous permettre aussi de partager en tout cas le risque et le coût.
Toute cette démarche en perspective permettrait de développer quoi pour le territoire ?
J'espère plein de choses. J'espère plein de choses. Déjà, en tout cas, moi de mon expérience, quand on crée des passerelles entre les gens qui sont de mondes différents, généralement ça crée des choses. Ça peut créer du conflit, ça peut créer de la tension, ça peut être hyper chouette ou parfois hyper désagréable, mais quoi qu'il en soit, il en ressort des choses. Et on identifie en fait des besoins qui peuvent être communs, qui peuvent être divergents, mais ça génère en tout cas du mouvement, de l'envie, de la dynamique. Et donc il y a ce premier effet en tout cas qu'on cherche nous, c'est que des liens se créent entre les personnes qui ne se voient pas forcément ou qui n'ont pas le temps de le faire. En termes d'activité, de création, de projet, c'est un peu en trame de fond de tout ça. Comment dire, je vais le prendre autrement. Quand on a construit ce projet-là, on s'est donné un objectif de départ qui était de se dire comment est-ce que tout ce qu'on met en place peut rentrer dans un processus de recherche-action, d'identifier comment est-ce qu'on peut être au plus près de ce qu'on souhaite générer, et en même temps qu'est-ce que ça nous apprend. Qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qui pourrait manquer? Sur quoi est-ce que finalement il y a les acteurs en place, politiques, entreprises ou associatifs, ne sont pas suffisamment développés ou n'ont pas suffisamment de moyens pour y arriver? Voilà, d'identifier un peu ce maillage-là et de voir où est-ce qu'il y a un peu des trous quoi dans la raquette. Sur quoi est-ce qu'il faudrait aller pour que ça avance? Et donc pour moi, du travail qu'on va construire, de cette recherche qui est publiée au fur et à mesure, hein, qu'on transmet, pour moi, il pourrait en fait ressortir les activités qui répondent à ça, qu'elles soient lucratives ou non lucratives. Donc aujourd'hui, je ne sais pas en fait. Voilà, on verra bien quelque part, à la fois pour nous et pour ce que ça générera. Mais c'est un pari, quoi.
Il y a des inscriptions peut-être pour assister à ces conférences? Il y a des places limitées? Ou alors, comment ça se passe si on veut vous joindre ou réserver sa place?
Alors, vous pouvez réserver en ligne. Donc, il y a un petit formulaire, voilà. Pour les informations, vous pouvez vous inscrire également en ligne sur la newsletter. Vous pouvez nous contacter donc par mail, soit donc à l'adresse contact@territorylab.com, et on répond toutes les semaines. Plusieurs fois par semaine même, aux différents messages. Voilà, donc vous pouvez m'appeler moi directement si besoin. Mon adresse personnelle, c'est donc tao@territorylab.com. Et puis pour les inscriptions, donc on peut aller jusque 150 personnes les soirs de conférence. Et le lendemain, donc sur les formats masterclass, on est sur des demi-journées à maximum 20 personnes. Voilà, ça peut aller jusque 30 l'après-midi, mais on est plus dans cette fourchette-là, quoi. Mais aujourd'hui, il reste encore un petit peu de place l'après-midi, quelques places le matin, et la soirée, il reste encore un peu de place.
On peut préciser ce qu'est une masterclass dans ce domaine ?
Alors, la masterclass dans ce domaine. Donc, encore une fois, c'est un nom qui fait réagir. On en a conscience. Après, on est là, on est dans le faire et moins dans la conception. Derrière la masterclass, l'idée, c'était d'avoir des personnes qui sont déjà en action sur la thématique et qui travaillent déjà, qui sont confrontées à des problématiques et qui ont envie de pouvoir aller plus loin. C'est de proposer, en fait, de faire venir des personnes ou des personnalités qui sont très peu disponibles, en fait, et que vous pouvez peut-être voir en conférence sur Internet ou à la radio, mais finalement, les occasions sont trop rares de pouvoir aller en contact direct avec elles, dans un cadre privilégié, de pouvoir leur parler de vos sujets, en fait, parce que plus les personnes sont reconnues ou ont une portée importante au niveau national ou international, au moins elles sont accessibles directement. Et donc l'idée, c'est de proposer des formats où il y a le temps de faire ça, où le savoir peut être transmis de manière qualitative et sur mesure. C'est ça l'idée de la masterclass. Voilà.
Territory Lab, c'est pour avoir un rayonnement international ?
Alors c'est une question qui revient souvent, qui fait réagir aussi. On nous dit, mais pourquoi vous le nommez en anglais ? Pourquoi ces mots-là ? Voilà. Là encore une fois, on est sur l'entre-deux. On se rend compte que les sujets de transition, bon, je les nomme comme ça, mais qui sont de l'ordre de l'alternatif ou d'un autre modèle de société, elles ne sont pas parlées de la même manière en fonction de là où on habite. Et quand je vous disais, on cherche à faire venir des gens à l'extérieur, bah, en fait, c'est que ces codes-là leur parlent quelque part. Ils vont voir derrière un nom anglais, par exemple, ou une démarche qui est très visuelle et peut-être un peu marketing ou com, ils vont voir quelque chose qui peut être intéressant. Là où au niveau local, en fait, il y a un côté où ça donne c'est un peu trop, quelque part. On sent que ça fait réagir et les retours qu'on a pu avoir, c'est de se dire, mais c'est pas comme ça qu'on rentre en contact ici. On l'a bien compris, mais du coup, on est sur un entre-deux. On essaye vraiment d'être sur du contact plus direct et plus simple, en fait. Au niveau local, avec moins de frou-frou, et en même temps trouver une manière de toucher des personnes que ça intéresse à d'autres endroits. Alors à l'international, pas à l'international, c'est l'avenir qui nous le dira, on n'en sait rien. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'on veut contribuer par ce projet-là à valoriser ce qui se passe dans la vallée de la Drôme, que ce soit bio-vallée ou non-bio-vallée, parce qu'à un moment, voilà, on n'a pas envie de rentrer dans une guerre de chapelle, mais on a envie de faire en sorte que ce qui se passe ici soit reconnu, parce que ça a de la valeur, et que y a des choses qui sont faites ici, qui répondent à des besoins et des attentes à l'extérieur. Et ça, en fait, je pense qu'il faut venir de l'extérieur pour s'en rendre compte, et du coup, là, notre place, elle peut être à cet endroit-là. Voilà. Donc le nom, il est plus pour l'extérieur, le but, c'est de créer du lien entre ces mondes-là, quoi, y compris ici.
Je pense qu'on pourrait passer beaucoup d'heures à converser sur ce domaine. Donc, je vous remercie, Tao Carpentier, d'être venu nous parler donc, de ce Territory Lab. Et donc, un premier rendez-vous le 31 mai à l'écocide de Heure.
C'est ça. Le suivant aura lieu le 5 juillet, donc sur les organisations, la façon de travailler ensemble. Donc, 5 et 6 juillet, également à l'écocide de Heure.
Et puis, sur le site internet, je suppose qu'il y a le calendrier aussi des prochains rendez-vous affichés.
C'est ça, tout à fait. Un dernier mot, tout cas, s'il y a un message à transmettre, c'est qu'on est ouvert, en fait. On est ouvert à réfléchir, à partager, à travailler avec ceux et celles qui ont envie de le faire. Et on ne vient pas forcément du même monde ou des mêmes endroits. On n'a pas forcément le même langage, mais... En tout cas, on est preneur et on a envie de ça. C'est ce qu'on cherche. Voilà, donc bienvenue, quoi.
Eh bien, bonne soirée, Tao. Au revoir.
Merci.